Economica, Anisla,
Jacques Lavergne, bonjour.
Economica, ou comment rendre accessibles à tous les faits et les idées économiques.
Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Ravi de vous retrouver, Anne, pour cette nouvelle vague d'Economica sur cette année 24-25. Et on commence traditionnellement par la citation. Ouvrez les guillemets. Je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que des armées entières prêtes au combat. C'était le troisième président des États-Unis qui a dit ça, Thomas Jefferson, 1743-1826. Donc ça ne nous rajeunit pas. Mais finalement, c'est toujours aussi pertinent, non ?
Oui, c'est toujours aussi pertinent. Bon, il a écrit à un moment où il n'y avait pas d'agence de notation, de choses comme ça, parce qu'on aurait pu en rajouter d'autres.
Voilà, je pense qu'il en aurait certainement mis une couche de plus. Et le thème du jour, Anne, aujourd'hui, sera...
L'assainissement des dépenses publiques. J'ai même mis un sous-titre, « Dette et austérité, la mauvaise équation ».
Eh bien voilà, tout un programme, mais on va commencer par quelques brèves que vous nous commenterez. Alors quelques brèves, la première, on va se transporter au soleil dans nos dom-tom, et notamment en Martinique. Les choses ne font que commencer, dit-on. Ça, c'est l'agence France Presse qui le dit. Environ 2000 manifestants se sont rassemblés à Fort-de-France, c'était le 19 octobre, bien déterminés à poursuivre le mouvement contre la vie chère à la Martinique, malgré l'accord qui a été signé concernant une baisse des prix de l'alimentaire. Alors l'État avait annoncé mercredi soir la signature de cet accord, avec les distributeurs notamment, pour baisser de 20% en moyenne les prix de l'alimentaire en Martinique, qui est le théâtre, vous le savez, depuis septembre, d'une mobilisation ponctuée de violences. Alors c'est quand même un peu gênant, parce que l'accord n'a pas été signé avec le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes. C'est un peu gênant parce que c'est le collectif à l'origine du mouvement. Donc effectivement, si on ne signe pas la paix avec lui, ça va être compliqué. Donc nouveau blocage sur l'ensemble du territoire. Et certains disent oui, mais cet accord signé ne concerne que 6000 articles. C'est trop peu. Et le leader du mouvement, qui s'appelle Rodrigue Petitot, qui a été accueilli comme une rockstar, et apparemment il est très populaire, eh bien il dit « nous ne pouvons pas accepter ça ». Donc on repart pour un tour en Martinique, qui est un peu laissé en déshérence, comme la Nouvelle-Calédonie, où le président était allé faire un tour pour donner quelques coups de menton, et puis il est reparti, et l'île est en train de crever. Plus personne apparemment ne s'en occupe. Si on y a envoyé le ministre des Outre-mer, il a fait un petit tour sans convaincre personne, il est reparti.
Oui, bien. Oui, tant qu'on ne mettra pas les choses à plat, tant qu'on ne posera pas les choses plus globalement, et puis quand on annonce en plus que l'État va baisser ses investissements, tout va bien.
C'est un peu délicat. Alors faut-il que les dom-tom, eh bien, on compense la différence de prix induite par l'éloignement, par le transport.
Oui, mais on avait fait une émission aussi sur les marges dans le secteur agroalimentaire, et on peut aussi, il n'y a pas que le transport. Qui fait monter les prix.
Il n'y a pas que le transport et il y a des poches profondes, mais qui se garnissent aussi. Alors les perspectives, les perspectives de croissance de la France telles que les voit l'INSEE, donc incertitude née de la séance politique, de la séquence politique de l'été, où on ne savait plus trop où on était et qui faisait quoi, l'INSEE maintient sa perspective de croissance à 1,1%. Pour l'année 2024, et il semblerait que la zone euro commence, dit-on, à sortir de sa torpeur, je cite l'INSEE. Au troisième trimestre, l'économie devrait progresser de 0,4%, après un premier trimestre à 0,3% et un deuxième trimestre à 0,2%, donc ça monte, prévision de croissance quand même nulle pour le dernier trimestre, donc un bilan de l'année tout à fait modeste. On va recommencer, comme l'a dit le chef du département de la conjoncture de l'INSEE, on va recommencer la prochaine année avec très peu d'élan. Ça semble être le cas. Donc la croissance n'est pas vigoureuse, mais elle reste atypique, nous dit-on, par sa composition. Le moteur de l'économie en 2024, ce n'est ni la consommation des messages, qui est complètement atone sur la première moitié d'année, ni l'investissement des entreprises, qui est bien retombé après 3 ans néfastes, ni les stocks, qui seraient plutôt en diminution. Non, qu'est-ce qui a relancé un peu cette croissance ? Eh bien, c'est le commerce extérieur qui fait la locomotive, qui contribue pour 1,3% à l'augmentation du PIB, ce qui fait que la demande intérieure totale serait de 0,4%, c'est ça ?
Oui, selon les dires de l'INSEE, mais tous les ans, depuis plusieurs dizaines d'années, l'INSEE a toujours des pronostics beaucoup plus optimistes que ce qui s'avère être la réalité. Donc,
ce sont des économistes, Anne, vous le savez.
Non, oui, mais ce sont des experts économistes.
Ah, voilà.
Pas on pourra en discuter un jour.
Voilà, y a des écoles même chez les économistes.
Oui.
Mais ce sont des projections mathématiques, globalement. Donc, effectivement, le moindre caillou dans la chaussure fait que ça dérape.
Oui, mais ça dérape tous les ans. Et vu le programme, la croissance en 2025 risque d'être encore plus atone, voire on risque de rentrer dans une période de très...
Pas de rentabilité, pas de croissance.
Mmh. Donc, oui, comme... et puis en plus quand la croissance est portée par le commerce extérieur, bon, on pourra en parler tout à l'heure, mais la TVA par exemple n'est pas perçue là-dessus, donc ça fait des ressources, moins de ressources fiscales.
Oui. On va y venir. Et justement, c'est bien notre problème, c'est qu'on a moins de ressources fiscales. Alors, autre sujet, les inégalités de patrimoine ont explosé en 20 ans. Et alors, on revient à l'INSEE qui a précisé le 17 octobre que la date de son rapport était sur les revenus, le patrimoine des ménages était prévue depuis 8 mois. Mais il paraît à point nommé alors que le déficit budgétaire a remis d'actualité l'idée d'une taxation plus forte des plus riches. Il faudrait savoir ce que c'est qu'une taxation plus forte et savoir ce que c'est que des riches. Et l'INSEE constate que le système socio-fiscal français a permis de contenir la dette, la nette augmentation des inégalités de niveau de vie depuis 20 ans, mais aussi combler les inégalités de patrimoine, lesquelles se seraient creusées sur la période. Exact, Anne ?
Oui, les inégalités augmentent et c'est dû principalement au patrimoine, oui.
Le niveau de vie médian, donc le niveau de vie médian, ça veut dire qu'il y a autant de foyers en dessus qu'en dessous, était, alors ce sont des chiffres de 2022, ça a dû très peu évoluer depuis, le niveau médian donc de revenus était de 2028 euros mensuels, ce qui est quand même très modeste pour le moins. En hausse de 24% depuis 1996 quand même, en tenant compte de l'inflation. Le pouvoir d'achat a suivi l'évolution de l'activité économique que l'on mesure par le PIB. On dira tout à l'heure tout le bien que nous pensons du PIB. Donc l'INSEE remarque une double dynamique, une baisse des revenus des plus modestes et une hausse des plus hauts revenus, principalement en raison d'un versement plus important de dividendes. Ça, on l'a constaté, ça ruisselle, hein, ça ruisselle, mais pas là où peut-être nous l'aurions attendu. Alors, avant redistribution, c'est important, l'écart entre le niveau de vie des 10% des ménages les plus pauvres et des 10% les plus riches a ainsi augmenté de près de 17% entre 2002 et 2021, ce que vous nous disiez en arrivant, hein, et hors micro, donc, mais nous y sommes. Alors, ces inégalités ont été modérées par le système redistributif français, progressivité des impôts, ciblage des prestations sociales sous conditions de revenus, revalorisation des minima sociaux et des aides exceptionnelles qui avaient été mises en place pendant la crise sanitaire. Le rapport, donc, après l'effet de ce système redistributif, le rapport entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches reste finalement quasi stable depuis 20 ans. 3,4 en 2021, 3,39 en 2022. Les inégalités étant plus fortes, nous dit l'étude de l'INSEE, l'impact du système socio-fiscal s'est donc amplifié.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai, Anne, oui, Anne, oui, corrobore.
Oui, je corrobore. Après, on pourrait prendre aussi les 1% les plus riches et les 10% les plus pauvres, ce ne seraient pas exactement les mêmes chiffres, voire les 2% les plus riches, parce qu'eux ont eu des augmentations de richesse beaucoup plus importantes que les autres. Voilà. Et c'est vrai que, par exemple, pour lutter contre la pauvreté, c'est reconnu par beaucoup d'experts, beaucoup d'économistes et beaucoup l'OCDE, d'institutions comme l'OCDE, par exemple, le système des retraites par répartition est le meilleur système pour lutter contre la pauvreté des gens les plus âgés. Et que ça aussi, c'est en train d'être remis en cause et ça amplifie les inégalités.
Et enfin, pour la dernière brève, la quatrième, donc, je vous propose de jeter un œil par-dessus nos frontières, du Nord en l'occurrence, et de parler de l'Allemagne où l'économie n'est pas très brillante et elle devrait encore se contracter en 2024, sachant quand même qu'il s'agit là de la première économie de la zone euro qui fait du surplace. Alors selon l'analyse des 5 grands instituts de conjoncture du pays, ils sont mis à 5, donc on peut estimer, les Allemands étant des gens rigoureux, que tout cela est parfaitement exact. Il y a eu Berlin, Munich, Kiel, Halle et Essen, qui ont rendu leur prévision de croissance harmonisée, jeudi 26 septembre. L'activité économique devrait encore se contracter de 0,1% en 2024, après une récession de 0,3% en 2023, dont la reprise devrait intervenir au plus tôt, si elle revient en 2025. Une progression modérée du PIB de 0,8% est attendue, pour ensuite atteindre 1,3% en 2026, c'est quand même très modeste pour l'Allemagne. Et les économistes nous disent, et je les cite, « Dans un avenir prévisible, la croissance économique ne pourra pas renouer avec les tendances d'avant la pandémie du Covid-19 », ce qui doit pas du tout réjouir nos amis allemands, qui avaient quand même l'habitude d'avoir une économie extrêmement florissante.
Oui, mais ils payent les restrictions, les politiques d'austérité, la baisse d'investissement de l'État, la baisse des dépenses publiques, enfin tout ce qu'on s'apprête à faire. On va suivre l'Allemagne.
On va suivre peut-être l'Allemagne, oui, parce que la stagnation commence à avoir chez eux des répercussions spectaculaires, menace de suppression de milliers d'emplois, peut-être des fermetures de sites de production allemands chez Volkswagen notamment, qui est le premier constructeur automobile européen et qui est là aussi le premier employeur industriel du pays. Donc une entreprise très solide, mais qui subit de plein fouet les crises multiples. Toujours les fameux experts, quand on dit les experts, sont les économistes, qui disent à côté de la faible conjoncture mondiale, l'économie allemande est affectée par un changement structurel qui se manifeste particulièrement dans les industries manufacturières, sachant que les secteurs les plus touchés, c'est les fabricants de machines et d'automobiles. On le sait, c'est quand même leur force, et ils en ont vendu beaucoup en Chine et beaucoup aux États-Unis. Entre parenthèses, les ventes d'automobiles aux États-Unis excitaient M. Trump, qui a les voitures allemandes en travers de la gorge. Donc s'il revient à être élu, je pense que les Allemands vont encore plus souffrir. Et ces deux secteurs, la fabrication de machines et d'automobiles, sont très consommateurs d'énergie, comme l'est la chimie et la chimie et la sidérurgie. Et donc là, leur compétitivité souffre de la hausse des prix de l'énergie, de la concurrence croissante des produits industriels de haute qualité en provenance de Chine qui évince les exportations allemandes sur les marchés mondiaux. Vos collègues économistes, Anne, qui nous disent ça. Et puis à tout ça s'ajoutent les défis de l'accord de la décarbonation, les défis du numérique et le vieillissement de la population, ce qui commence à poser un problème parce que, certes, l'économie allemande se ralentit, mais les industriels allemands, un peu comme les nôtres, sont à la recherche de main-d'œuvre. C'est bien beau de rapatrier les usines, c'est bien beau de jouer la carte de l'indépendance, mais si on n'a personne pour travailler dans les usines, comment va-t-on faire? Peut-être que nous pourrions poser la question à ce grand expert vendéen qui est M. Retailleau. Voilà pour ce qui est des brèves. Et eh bien, passons au thème du jour que va nous développer Anne, dont je vous rappelle le titre, l'assainissement des dépenses publiques. On est en plein dedans avec son sous-titre, dette et austérité, la mauvaise équation. Alors Anne, qu'est-ce que c'est que la dette? C'est la première question. La dette, tout le monde parle de la dette. Qu'est-ce que c'est que la dette? Parce qu'il y a la dette, il y a le déficit. Donc il va falloir que l'on fasse un peu de pédagogie et vous allez nous expliquer tout ça.
Oui, je vais essayer de vous expliquer tout ça pour pouvoir suivre les débats en ce moment enflammés au sein de l'Assemblée. Donc la dette, qu'est-ce que c'est ? La dette, elle est calculée à une date donnée, c'est ce que le pays a à rembourser, c'est-à-dire qu'elle est constituée d'un capital et de ce qu'on appelle la charge de la dette, notamment les taux d'intérêt. Alors, faut pas confondre la dette avec le déficit, vous l'avez dit, même s'ils sont liés. Le déficit, lui, c'est la différence sur une année entre les recettes et les dépenses de l'État. Alors, les recettes, bien sûr, dépendent de la fiscalité et de l'activité économique. Plus les gens produisent et consomment, plus il y a d'impôts qui entrent dans les caisses de l'État. Donc, les recettes dépendent, par conséquent, notamment du PIB. Et c'est aussi pour ça que l'on compare la dette au PIB. Donc la dette, c'est la somme des déficits qu'il reste à rembourser à un moment donné, par exemple aujourd'hui, le 22 octobre. Alors prenons un exemple hein, avec des chiffres réels. Bien sûr, le déficit est de 5,5% du PIB en 2023. Il s'explique non pas par une hausse des dépenses publiques, qui elles n'ont très très peu augmenté depuis 30-40 ans, mais en fait qui s'explique par une diminution des recettes qui ont diminué les dépenses publiques elles ont diminué de 58,8% à 57,3% du PIB et alors qu'on a une chute significative des recettes principalement des prélèvements obligatoires qui sont passés de 54% à 51,9% du PIB sur une année. Alors cette baisse record des recettes depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'avait jamais vu ça, a contribué bien sûr largement au creusement du déficit. Alors la stratégie qui semble être sous-jacente, c'est de réduire les recettes. Hein, on a vu que depuis 2017, il y a beaucoup de baisses de recettes. J'y reviendrai plusieurs fois, pour justifier une baisse des dépenses publiques dans une optique de privatisation progressive des services publics. Fonds de pension pour les retraites, assurance privée pour la santé, cliniques plutôt qu'hôpitaux, écoles privées, etc. Donc, rappelons quelques baisses de recettes qui ont été faites ces dernières années. La suppression de l'impôt sur les fortunes financières, la suppression de la taxe d'habitation, la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, etc.
Donc les impôts de production, la flat tax qui a été baissée, la suppression de la taxe d'habitation, la suppression également de la redevance audiovisuelle. Donc à peu près, on a perdu d'un coup 60 milliards qu'on est en train aujourd'hui de chercher.
Oui, 70 milliards à peu près depuis 2018. Voilà, c'est les chiffres.
C'était la fameuse théorie du ruissellement dont on sait que ça n'a jamais fonctionné nulle part, et la théorie de l'offre.
C'est la théorie de l'offre, oui. Donc la dette, mais je vais y revenir dans un instant. La dette, elle dépend donc des recettes et des dépenses de l'État et des taux d'intérêt aussi, bien sûr, à rembourser, même si aujourd'hui, hein, ces dernières années, la dette n'est, les taux d'intérêt n'entrent pas trop en compte dans l'augmentation de la dette, mais ils existent tout de même.
52 milliards quand même, hein, ça en fait le deuxième poste de budget. Hein.
Ça en fait le second poste de budget et ça dépend bien sûr du financement qui a été décidé.
L'inflation a été réduite, donc ça nous coûte encore plus cher.
C'est des taux d'intérêt réels, oui, ce dont vous parlez. Et ça, c'est parce que depuis les années 80, on est passé sur un financement par les marchés financiers, alors qu'il y a d'autres financements qui ont été mis en place, hein, le circuit du Trésor dans l'après-guerre, la Banque centrale, etc. Et on pourrait en imaginer d'autres. Alors, on avait fait une émission hein, sur le sujet, donc peut-être que j'y reviendrai pas. En septembre 2024, pour la petite histoire, les taux d'intérêt versés par l'État grec sur sa dette à 5 ans sont inférieurs aux taux français. Donc ça signifie que pour la finance mondiale, en septembre, il est moins risqué de prêter à Athènes qu'à Paris. Alors cette dette, elle est toujours mesurée en fonction du produit intérieur brut, du PIB. C'est une convention, on aurait pu en choisir d'autres. Donc quand on dit que la dette augmente ou diminue, en fait on dit toujours qu'elle augmente ou qu'elle diminue en pourcentage du PIB. Si je prends le premier trimestre 2024, la dette publique s'établissait à 3159,7 milliards d'euros, selon l'INSEE, soit 110,7% du PIB. Donc la question suivante, c'est qu'est-ce que c'est que ce PIB, hein, ce produit intérieur brut, qui mesure tout ce qui est produit dans un pays.
Pas tout, pas vraiment.
Pas vraiment tout, mais c'est ce qui est produit dans un pays, et ce n'est pas ce qui est produit par les entreprises du pays. Ça, c'est le PNB. Et les États-Unis, eux, fonctionnent plutôt selon le PNB dans leurs calculs, alors que l'Europe et la France fonctionnent en fonction du PIB. Alors, dans ce PIB, on essaye donc d'évaluer toute la production qui est faite sur le pays. Donc, on ne prend pas en compte l'activité des firmes françaises à l'étranger. Ça, c'est pris par le PNB. On va prendre en compte certaines choses et d'autres non, pour essayer d'additionner toutes les valeurs ajoutées créées au sein du territoire national, par les entreprises, les services publics, la production des particuliers comprises. Alors, on va avoir quelques petits artifices. Hein. Par exemple, au niveau du calcul du PIB, les locataires et les propriétaires sont tous considérés comme payant un loyer, comme si les propriétaires se louaient à eux-mêmes un logement. Donc, ça permet de grossir un peu le PIB. On va comparer des productions marchandes mesurées par rapport à un prix de marché et des services publics qui sont évalués par rapport à ce qu'ils coûtent en dépenses publiques. Donc, la valeur d'un enseignant, par exemple, c'est son salaire. On va prendre en compte des activités souterraines ou des activités cachées. Par exemple, on va estimer le jardinage du dimanche, mais on ne va pas prendre en compte la cuisine domestique, qui est d'ailleurs plutôt réalisée par les femmes, c'est dit en passant. Depuis 2018, en France, on prend en compte le commerce de la drogue, alors que c'est une activité souterraine. Par contre, on ne prend pas en compte la prostitution en France, mais on le prend en compte d'autres pays. Mais on la taxe fiscalement, mais ça ne rentre pas dans le PIB, alors que ça rentre en Irlande, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, bon, etc. Donc on n'a pas exactement les mêmes conventions entre les différents États. Bien sûr, le PIB ne mesure pas le troc, le travail bénévole. Ça ne reflète pas l'état des liens sociaux et encore moins l'état de notre environnement. Donc, on peut se demander quelle est la pertinence de ce
PIB. Il y a beaucoup de gens qui se demandent depuis des années. Depuis et puis, finalement, on ne fait rien. On reste sur cette espèce de thermomètre qui mesure mal, qui mesure partiellement. C'est un peu désolant.
C'est un peu désolant. Alors, peut-être qu'on pourrait faire une émission uniquement sur le PIB. Ce serait peut-être intéressant.
C'est possible. On fait quand même la première pause musicale pour que nos éditeurs puissent réfléchir à cette notion de PIB.
Puissent réfléchir et respirer.
Oui.
Alors, bon, j'ai choisi un titre d'un groupe qui s'appelle Midnight Oil, un titre de 1987, Beds Are Burning, et le chanteur qui a été ministre de l'Environnement en Australie.
Oui, donc on a des ministres qui écrivent de l'économie, qui écrivent des livres un peu salaces, et puis eux, ils ont des écrivains qui deviennent ministres de l'environnement. Chacun a les hommes politiques qu'il peut.
Time has come.
Voilà, la pause musicale, le choix d'Anisla, ma partenaire d'Economica, c'était la musique Madeleine de Proust d'Anisla, puisque c'était sa, la musique de ses 20 ans, comme elle nous l'a précisé. Et donc, nous retrouvons notre sujet, l'assainissement des dépenses publiques, dette et austérité, la mauvaise équation. Anne, on était en train de dire tout le mal que l'on pensait de ce très mauvais thermomètre qui est le PIB, mais pour l'instant, nous n'en avons pas d'autre.
Non, pour l'instant, nous n'en avons pas d'autres. Alors, si on veut récapituler un peu ce qu'on a dit, la dette, c'est la somme des déficits qui restent à rembourser. La dette dépend donc des recettes de l'État, des dépenses et des taux d'intérêt qui eux-mêmes dépendent du choix de financement, financement par les marchés financiers ou autres modes de financement. Pour l'instant, depuis les années 80, donc ce sont les marchés financiers. Alors, le déficit, on est à 148 milliards de déficit pour le seul compte de l'État en 2022, 155 milliards en 2023, 170 milliards en 2024, selon les estimations de Bercy. Alors, pourquoi un tel décalage entre les recettes et les dépenses publiques? Pourquoi y a-t-il tant de mauvaises surprises alors que le pays ne connaît aucune crise particulière ces trois dernières années? En 2023, le PIB donc, s'est accru de 0,9%. En 2022, il avait cru de 2,6%. En 2021, année de reprise post-Covid, il avait bondi de 6,9%. Donc normalement, lorsque l'activité progresse, les recettes fiscales augmentent, tandis que les dépenses publiques, notamment sociales, diminuent. Donc quand on a croissance, on a baisse du déficit, mais cela ne fonctionne pas toujours exactement comme ça. Ça, c'est la théorie et parfois, on a un petit décalage. Alors, la politique qui est menée, vous le disiez tout à l'heure, depuis plusieurs années, est ce que les économistes appellent une politique de l'offre. L'idée, c'est donc de favoriser l'offre des entreprises, ce qui est censé entraîner l'activité économique. Faire de l'État une start-up. C'est pas de moi, c'est de Trump ou de Macron qui utilisent les deux cette expression. Donc pour ce faire, le gouvernement a diminué les impôts payés par les entreprises alors qu'il aurait pu diminuer les impôts pour, par exemple, les petites et moyennes entreprises ou les toutes petites entreprises et au contraire, faire payer aux grandes entreprises les impôts qu'elles devraient payer. Faire plus de justice fiscale, on en a aussi déjà parlé à d'autres occasions. Donc pour mener la politique de l'offre, on a aussi réduit le travail plus flexible et moins cher, exonération des cotisations, etc. Mais aucun investissement supplémentaire de la part des entreprises. Hein, donc malgré cette politique de l'offre, l'investissement, vous l'avez dit tout à l'heure, est à tonnes, n'augmente pas. L'investissement des entreprises reste désespérément plat dans notre pays et ce ne sont pas les consommations qui vont compenser car le niveau de vie de la population baisse. D'après un économiste...
Il pourrait investir dans quoi les entreprises?
Elles pourraient investir dans leur outil de production, déjà.
Ça veut dire qu'on ne renouvelle pas l'outil de production? Ça veut dire qu'on ne robotise pas, par exemple?
Ça veut dire qu'on améliore, pour le dire de façon très globale, qu'on ne l'améliore pas.
Oui, hein, donc on stagne, donc on recule.
On stagne, donc on recule.
Notamment
voilà.
Face à des pays beaucoup plus dynamiques, par exemple, Séoul, la Corée du Sud.
Par exemple, mais on voit que l'Allemagne, dont vous parliez tout à l'heure, on constate aussi la même chose dans ce pays-là. Un peu en avance d'ailleurs sur nous, et on est en train de suivre le même mouvement.
Ça veut dire que toute l'Europe recule globalement, hein, parce qu'il n'y a aucun pays qui soit très flambant, si vous me passez l'expression, sur le plan économique. Par contre, les États-Unis, eux, ont une progression très très importante. Monsieur Biden a un excellent bilan économique.
Oui, mais l'État américain, même s'il a un discours plus libéral, investit beaucoup plus que les États européens. Et puis les États européens payent la politique d'austérité qu'ils prônent depuis Maastricht à peu près, hein, enfin, même
oui,
avant.
Oui, bah, surtout les pays du Nord, dits pays frugaux, qui se refusent à sortir un peu des rails et relancer l'économie.
Voilà, c'est ce que l'on paye. Baisse des dépenses publiques, c'est la seule chose qu'on a à la bouche dès qu'on a une dette qui augmente, et ça ne sert à rien. Et même le Fonds monétaire international reconnaît que les politiques d'austérité ne servent à rien et sont même souvent contre-productives. Et pourtant, ce qu'on nous annonce, c'est qu'il va falloir dégager 60 milliards d'euros, 20 milliards d'impôts en plus, 40 milliards de dépenses en moins. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'on va prendre, on pourrait le dire comme ça, on va prélever 60 milliards sur la création de richesses. Alors ça, ce mécanisme, il avait été décrit par un économiste très connu dans les années 50, John Maynard Keynes. D'ailleurs, on appelle ce mécanisme le multiplicateur keynésien. Si je prends par exemple le cas des collectivités locales, qui procèdent à plus de la moitié des investissements publics en France, hein, les routes, les lycées, les écoles, les stades, bon, etc. Si, comme le souhaite Bercy, leurs dépenses sont réduites, elles construiront moins, le secteur du bâtiment et des travaux publics licenciera, les anciens employés des chantiers verront leurs revenus chuter, ce qui impactera les commerces locaux qui licencieront, voire fermeront, etc. Alors, les économistes ont calculé qu'en France, aujourd'hui, le multiplicateur keynésien vaut 1. C'est-à-dire que lorsque l'État prélève 60 milliards, le PIB chute de 60 milliards. Or, quand le PIB chute, le déficit se creuse. Moins d'activité, moins de recettes. Et la dette augmente. Elle augmente non seulement en volume parce qu'il y a moins de recettes, mais elle augmente encore plus si on la mesure en pourcentage du PIB. Donc le ratio dette sur PIB, qui est le chiffre le plus regardé par les marchés financiers pour établir leur taux d'intérêt lorsqu'ils prêtent à un État, ce ratio se dégrade. Il faut rappeler aussi que depuis le 26 juillet 2024, le Conseil de l'Union européenne, donc le Conseil qui est composé des ministres des 27 États membres, a entériné la recommandation de la Commission européenne à la majorité qualifiée en ouvrant une procédure de déficit excessif à l'encontre de la France. Déficit excessif, bon, il n'y a pas que la France hein, qui a été soumise à cette procédure. Et la réaction de la France, c'est d'augmenter la dette, en fin de compte, et de diminuer le PIB, puisque ces 60 milliards ne feront pas, en réalité, si on arrive à les retirer, ne feront pas baisser cette dette.
Alors où va-t-on là ? Parce que quand on vous écoute, on a envie d'ouvrir la fenêtre et de sauter.
Où va-t-on ? Ouais, eh bien, on va continuer. On a eu un appauvrissement des pays européens, des explosions de dette dans la zone euro. Alors pour vous donner des chiffres que je viens de retrouver là dans mes documents, 66% du PIB en 2007, à plus de 90% en 2012 sur la zone euro. Tout cela, on l'a dit à l'instant, hein, parce que l'Europe n'a pas pratiqué une politique budgétaire expansionniste de la même ampleur que les USA. Donc, un décrochage. Les USA, eux aussi, acceptent des déficits plus importants,
8%. Enfin, ils les font financer par les autres, hein, puisque tout est en dollars. on sait quand même comment ça fonctionne.
Oui, c'est vrai qu'ils sont bien placés, mais l'euro aurait pu aussi être une monnaie qui aurait pu prendre aussi beaucoup plus d'ampleur et qui a quand même... qui est quand même relativement important dans les échanges internationaux. Oui,
si vous regardez le déficit de l'économie américaine, il doit être un déficit public de 1,830 milliards, ce qui est quand même colossal, qui devient totalement hors de contrôle, et ça fait 6,3% du PIB.
Oui.
Donc, personne...
Voire même plus, par certains... voire même un tout petit peu plus.
Et le déficit va augmenter. Si Trump est élu, il va baisser certains impôts, notamment l'impôt sur les sociétés. Mmh. On va avoir une résurgence de l'inflation, une augmentation des droits de douane qui vont impacter effectivement et nourrir cette inflation. Donc, le système économique mondial va quand même mal.
Le système économique mondial va mal, alors espérons que Trump ne soit pas élu, que Kamala Harris le soit, et qu'elle s'inspire des travaux de son père économiste.
Oui, dont vous nous avez dit, grand-mère, je ne savais pas du tout que M. Harris était Donald comme Trump. Alors, ils ont le même prénom.
Oui, je crois qu'il se prénomme Donald. Il faudrait vérifier, mais il me semble que c'est son prénom. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura des millions de pauvres en plus, des milliers de milliards de dettes en plus. On a vu ça déjà ces cinq dernières années, même à plus long terme. Et on continue sur les mêmes politiques. Alors, peut-être qu'il y a... autre chose, hein, derrière, peut-être qu'il y a une volonté de baisser les dépenses publiques pour pouvoir privatiser les services publics. C'est un peu aussi la stratégie qu'on a jouée en diminuant les budgets des collectivités locales, hein, qui ont été obligées de privatiser certains services.
Alors dans tout ça et dans ce budget... qui se discute aujourd'hui à l'Assemblée nationale, il y a quand même un point et une enveloppe dont on ne parle jamais, c'est celle qu'il va falloir attribuer à la transition climatique.
Oui.
Il va quand même bien nous falloir la financer, cette transition climatique.
Non seulement la financer, mais aussi investir massivement dans cette transition climatique, dans cette transition écologique. Et en plus, il me semble qu'il est impossible de faire de la transition écologique sans lutter contre les inégalités. Ça va de pair. Sinon, on risque de mettre des individus encore plus en difficulté, avec encore plus de rancœur, et qui risquent de voter ou d'avoir...
Puis il faudrait peut-être travailler un peu l'évasion fiscale, notamment celle des grandes entreprises qui sont aujourd'hui très bien organisées, et même des entreprises dans lesquelles l'État participe au capital et qui ont leur siège social, par exemple, au Luxembourg.
Oui, grandes entreprises payent à peu près 3% d'impôts en moyenne, ce qui est très peu par rapport aux PME.
Quand on dit qu'on va taxer et les riches et les entreprises... c'est une déclaration de principe, mais quand il va falloir pratiquement s'y mettre, on va faire comment?
Alors,
on va faire comment? Parce qu'il faut des textes, il faut appliquer ces textes, il faut former des fonctionnaires, les fonctionnaires des impôts à ces nouvelles taxations, il faut aller chercher l'argent. Et on sait très bien que quand vous êtes une entreprise internationale, hein, multinationale, quand vous avez des établissements dans différents pays, c'est relativement facile de faire naviguer la matière fiscale d'un pays à l'autre et de la situer dans celui qui a la taxation la plus basse.
Oui,
donc avant qu'on y arrive et qu'on dégage, peut-être qu'on y arrivera un jour, mais enfin avant qu'on arrive à dégager des marges fiscales sur ces grandes entreprises, c'est pas pour demain.
C'est pas pour demain. Il commence quand même à y avoir un accord mondial, hein, sur l'imposition des très grandes entreprises. On a du mal à le mettre en œuvre, mais cet accord existe. On commence à discuter d'un accord mondial sur les individus les plus riches. Là, on ne parle plus des entreprises, mais des individus. Il y en a qui proposent aussi de mettre en place une sorte d'ISF vert. Un impôt sur la fortune verte pour...
Des années, tout le système, par exemple, des prix de transfert, hein, ce que j'évoquais tout à l'heure, alors ça c'est plutôt le terme technique qui permet de localiser la matière fiscale dans des endroits plus doux sur le plan de l'imposition, tout ça, ça existe, mais on ne fait rien là-dessus. Chaque fois qu'il y a on lève un lièvre fiscal, par exemple, en disant, oui, dans tel paradis fiscal, il y a des dizaines dizaines de comptes qui sont basés là-bas. Qui c'est qui lève ce lièvre? Ce sont des groupements de journalistes. Oui. Ce n'est jamais des services fiscaux qui pourraient, par exemple, s'allier avec nos services dits de renseignement, qui pourraient se renseigner, justement.
Oui,
si les journalistes le trouvent, ils ont les moyens de le trouver. Or, il n'y a pas cette volonté d'aller chercher la matière fiscale là où elle se planque, pour être très trivial.
Oui, mais bon, c'est pas moi qui vais pouvoir vous donner la solution. Comment on fait pour appliquer les lois et les règles, hein ? Je suis un peu diminuée pour dire comment on fait pour appliquer les règles et les lois, parce qu'il y en a qui existent déjà et qui sont peu appliquées, vous venez de le souligner, alors qu'il y a des journalistes qui arrivent à voir ce qui se passe. Donc, on pourrait avoir des fiscalistes, des fonctionnaires qui puissent le voir. Alors, comment le mettre en œuvre? Ça, ce n'est pas de mon ressort. Hein. Là,
il faut beaucoup plus d'heureux. C'est assez facile. Il faut un peu plus de personnel au service, dans les services fiscaux, du personnel surtout qualifié, pas des gens qui ne savent pas lire une comptabilité ou qui sont un peu en dehors des problèmes procéduraux. Il faut mettre les moyens humains et après, eh bien, on aura des résultats. Il faut investir.
Oui, il faut une volonté. Il faut une volonté politique.
Il faut une volonté politique et des moyens derrière.
Mais cette volonté et ces moyens...
Et on ne la voit pas.
On ne la voit pas. C'est vrai, on ne la voit pas. Et c'est vrai que ça commence à être encore plus compliqué parce qu'on voit bien que... Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, allez voter. C'est la seule façon de changer les choses. Mais même quand ils votent, ça ne change pas. Donc, on est un peu démunis dans cette situation-là. Et on voit qu'on a un problème... qui est extrêmement important, hein, puisque toutes ces économies de dépenses dont le gouvernement se gargarise, il dit on ne veut pas augmenter les impôts. Alors, certes, c'est compréhensible hein, pour ce qui concerne les couches populaires, les classes moyennes, basses et intermédiaires, mais ça devient une aberration lorsque ça concerne les classes supérieures, lesquelles sont pourtant les grands bénéficiaires de la suppression de la taxe d'habitation, de l'ISF, par exemple. Hein. Et de même pour les entreprises. Donc, on a des solutions, il y en a, les économistes en proposent. Est-ce qu'on a une volonté de les mettre en œuvre? Ça, c'est une autre...
C'est une autre question.
Une autre question.
On ne la voit pas beaucoup arriver. Moi, ça fait 45 ans, je crois, que je baigne un peu dans la fiscalité. J'y baigne un peu moins maintenant. Mais très franchement, je n'ai jamais vu, alors qu'on sait techniquement comment il faudrait faire. Hein, c'est technique, c'est complexe, mais on peut très bien y arriver. On ne voit pas cette fameuse volonté politique qui ne pourrait se traduire qu'en mettant des moyens humains et techniques à la disposition de Bercy et de ses agents.
Alors peut-être qu'un petit début de solution, ce soit que les gens comprennent ce qui se passe. Et voilà. Les émissions d'économie, c'est fait pour ça, pour commencer
voilà,
à comprendre
pour dire,
et commencer
pour
à
se dire il y a peut-être quelque chose à faire. Voilà, il faut participer au débat et peser là où il faut, là où ça fait mal à certains. Allez, on fait une deuxième pause musicale. Alors justement, moi, dans cette pause musicale, puisque celle-là, elle est de mon choix, moi, je vous ai emmené dans un pays qui, lui, a un budget excédentaire. Hein, ça fait la troisième année qu'il a un budget excédentaire, au risque d'ailleurs de pas mal d'entorses aux règles financières de l'Europe. On lui avait permis de faire un certain nombre de choses, justement, pour sortir de son marasme économique, hein, à une certaine époque, parce que c'était un pays pauvre, c'est devenu aujourd'hui... un pays qui est relativement riche, mais qui ne le doit que à ses règles fiscales très agréables
c'est
pour
un paradis fiscal.
Les grandes entreprises. C'est un espèce de paradis fiscal, mais c'est aussi un pays superbe, à la nature intacte et pour grande partie sauvage, où il fait bon vivre, il faut le dire. Ça s'appelle l'Irlande. Et on écoute Sardou qui nous chante les lacs du Connemara, pays lui aussi tout à fait superbe.
Brûlé au vent des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer. le Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. Maureen a plongé nue dans un lac du Connemara. Sean Kelly s'est dit, je suis catholique, Maureen aussi, l'église en granit de Limerick. Maureen a dit oui. De Tipperary, Barry Connolly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Connors, les O'Connolly, les Flaherty, du Ring of Kerry et de quoi boire trois jours et deux nuits. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix du silence. Là-bas, au Connemara, on dit que la vie c'est une folie et que la folie ça se danse. Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants. Un peu d'enfer, le Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. On y vit encore au temps des Gaëls et de Cromwell, au rythme des pluies et du soleil au pas des chevaux. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager certains soirs d'été et replonger pour l'éternité. On y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un coup de meilleur. On y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix autour de la croix. C'est tout le prix de la guerre. Là-bas, au Connemara, on n'accepte pas la paix des Gallois, ni celle des rois d'Angleterre.
Voilà un rappel de l'Irlande, de ce beau pays d'Irlande et du Connemara. Et puis tiens, si vous avez envie d'oser approcher par la lecture, je vous conseille un livre de Michel Déon, Le Taxi Mauve, dont on a vu autrefois, hein, c'est votre jeunesse, Anne, dont vous aviez vu le film avec Philippe Noiret, notamment. Fabuleux bouquin qui te fait du bien à relire. Dernière rubrique, nos rubriques de fin d'émission, bah déjà l'économie en Occitanie. Alors, on se gargarise toujours de l'Occitanie où il fait bon vivre, où on fait de fabuleuses autoroutes en massacrant le territoire, merci Madame Delga. On fait des LGV en massacrant aussi le territoire dont l'intérêt est économique et en termes de vie et de transport et de déplacement n'est pas évident. Mais il faut quand même rappeler que le niveau de vie médian des habitants de la région s'élève à 22 010 euros. Alors ça, c'était en 2021, mais ça fait quand même 1010 euros de moins que le niveau de vie médian national. L'Occitanie se place au deuxième rang des régions de France métropolitaine où les revenus sont les plus faibles derrière les Hauts-de-France. Donc le niveau médian qui est à peu près hein, entre 22 et 24 000 euros en Haute-Garonne, c'est 4 000 euros de plus que l'Aude, où l'Aude a 4 000 euros de moins. C'est quand même un département qui est aussi sinistré. Il suffit d'ailleurs d'aller regarder pour qui ils ont voté aux dernières élections, vous allez comprendre. Vous prenez les Pyrénées-Orientales, c'est pareil. Donc la pauvreté est très présente à Occitanie, il y a de fortes disparités entre les départements, mais elle est très présente. Le taux de pauvreté de 17,5% place l'Occitanie en troisième position, je vous l'ai dit, après les départements les plus pauvres. Alors c'est globalement les Hauts-de-France et la Corse. Donc il faudrait peut-être être un peu plus modeste et travailler peut-être un peu plus. Hein. L'Occitanie, par ailleurs, c'est le paradoxe, a un très joli PIB, ce fameux PIB que nous avons fustigé tout à l'heure. C'est la cinquième région de France métropolitaine qui crée le plus de richesses. Elle n'est devancée que par l'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Nouvelle-Aquitaine. Mais en Occitanie, les PIB par habitant et par emploi sont inférieurs à la moyenne de la France de province. Peut-être qu'il faudrait se pencher sur cette question, hein, plutôt qu'aduler des grands travaux dont l'utilité ne nous apparaît pas aveuglante et qui nous coûtent des milliards d'euros. Il serait bien de les mettre ailleurs. Un habitant sur deux âgé de 15 ans ou plus et non scolarisé possède au minimum un diplôme de niveau bac, ça c'est bien. Hein. Et si la part des diplômés de l'enseignement supérieur est importante en Occitanie, les écarts sont très forts entre départements. Ça va de 44% en Haute-Garonne, qui est un peu la locomotive finalement de la région, avec certainement Montpellier, à 26% dans le Tarn-et-Garonne, l'Aude et l'Ariège. Donc nous avons des efforts à faire. Beaucoup d'efforts à faire et peut-être qu'encore une fois, je rappelle un peu, notre personnel politique a un peu plus de modestie, ça lui fera du bien. En commentaire peut-être sur...
Non, juste pour dire que le PIB donc mesure pas tout.
Et non, le PIB ne mesure pas tout et il faut regarder les choses dans leur entièreté. Nous terminons comme d'habitude par les conseils culturels. Anne, qu'est-ce que vous nous proposez de lire, de regarder, d'écouter?
Alors moi, je vous propose un petit livre facile à lire de Nastasia Adjadji, « Nos cryptos, comment Bitcoin a envoûté la planète ». Donc si vous voulez enfin comprendre ce que c'est qu'une crypto-monnaie, d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment une monnaie, ces monnaies magiques d'Internet qui suscitent un engouement souvent teinté de fanatisme.
Il y en a qui ont pris le bouillon quand même avec les bitcoins.
Ah mais bien sûr, on prend le bouillon et puis on remonte, puis on reprend le bouillon, enfin sans arrêt. Et ce petit ouvrage donc décrypte comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a comme idéologie derrière. Voilà, c'est assez, c'est très très intéressant. Et donc, c'est mon petit conseil de lecture. Et puis aussi, quelles sont les conséquences hein, de ces crypto-monnaies? Qu'est-ce qu'elles amènent est-ce que c'est... Enfin, les aberrations que c'est au niveau écologique, hein, puisque pour miner une monnaie, une crypto-monnaie, il faut un arsenal d'ordinateurs qui fonctionne 24 heures sur 24, bon, etc. Pour tout comprendre, donc, nos cryptos, comment Bitcoin a envoûté la planète.
De Nastasia, je le répète, Adjadji, c'est très compliqué, H-A-D-J-A-D-J-L, et c'est une journaliste indépendante hein, qui couvre le numérique et les cultures web.
Oui, voilà, c'est une journaliste indépendante qui travaille sur plusieurs, avec plusieurs journaux, Le Monde, Les Échos, Isbek Henrika, l'ADN, Numérama, etc. Voilà. Ouais, elle a même travaillé pour Arte sur certains.
C'est dire. Alors moi, je vais vous parler de, bien d'une lecture qu'il faut faire. Il suffit d'aller sur Internet, elle est en lecture libre. Vous allez sur l'Institut Montaigne qui a commandé un rapport sur la malbouffe. Rapport qui a beaucoup ému tout le petit monde de l'alimentation. Alors, l'Institut Montaigne est un institut libéral, mais là, il a porté quand même le fer dans la plaie. Il l'a reçu, et il y avait un très bel article du Canard Enchaîné sur sa dernière livraison là-dessus. Ils ont eu des pressions tous azimuts, sous diverses formes, mais ils ont tenu bon et ils ont sorti ce rapport et où ils nous disent très nettement, je vous en conseille la lecture, là vous avez le rapport qui fait 166 pages et puis vous avez un résumé de 6 pages, donc ça se charge très facilement et on nous dit qu'aujourd'hui, ils nous disent, la France est confrontée à un triple défi alimentaire, on le sait, social, sanitaire et écologique. Sur le plan social, la crise inflationniste a accentué une situation déjà très préoccupante en matière d'alimentation. On le sait quand on rentre dans un supermarché. On doit faire face à des dépenses contraintes, grandissantes, contraintes parce que on n'a pas le choix.
Les dépenses en biens alimentaires ont diminué pour la première fois l'an dernier depuis la Seconde Guerre mondiale.
Mais en attendant, il faut se loger, il faut se chauffer, il faut se véhiculer. Et donc l'alimentation serait devenue aujourd'hui la variable d'ajustement budgétaire des ménages les plus modestes. Donc un Français sur trois est aujourd'hui en situation d'insécurité alimentaire, c'est considérable. Sur le plan sanitaire, les consommateurs se tournent de plus en plus, et là est le problème, vers des aliments transformés par facilité ou méconnaissance culinaire. Et donc, ils vont adopter des régimes riches en sucre, en sel, en graisse saturée. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Nouvelles habitudes, mais également crise en matière de santé publique dont on peine encore à mesurer l'intensité, mais dont les externalités négatives sont de 525 milliards d'euros par an. Vous le savez, la proportion d'adultes obèses, il n'y en a pas dans ce studio, a doublé en 20 ans pour concerner aujourd'hui un Français sur 5. Et sur le plan écologique, notre consommation alimentaire est beaucoup trop centrée vers des produits carnés et des importations. Et ça laisse une empreinte environnementale et climatique significative. Donc, très beau rapport, très beau boulot de l'Institut Montaigne à lire absolument et à compléter par un documentaire tout à fait remarquable sur Arte, qui est encore en ligne, Le Monde Obèse, ça s'appelle, et vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, vous voyez ce que les plus pauvres, donc souvent d'ailleurs des gens de couleur, on va dire des noirs, il faut dire les choses comme elles sont, vous voyez ce qu'ils mangent, vous voyez l'état physique dans lequel ils sont, vous voyez leur diabète, qui va même jusqu'à des amputations aujourd'hui. Donc lisez le rapport de l'Institut Montaigne, superbe boulot, et regardez ce formidable documentaire qui est un monde obèse sur Arte. Une fois que vous aurez vu ça, vous aurez déjà compris un peu comment marche le monde et qui c'est qui le dirige. Voilà, nous sommes arrivés au bout, Anne, de notre émission d'Economica, donc notre émission d'Anisla et de Jacques Lavergne. Au bouton, nous avions Grégoire Naches, que l'on remercie. Et vous, bien sûr, vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. À très bientôt, Anne, pour une nouvelle édition d'Economica.
À bientôt.